short. T'as fait filmer les doigts parce qu'elle m'en zèle bien. Hot, hot, hot. Fini girl dem, oh oui, un fan girl. Pas abusé pour chaîne, girl dem, poupée marée moi. Et c'est moi vrai tout ça, en vrai vrai genre, yeah, girl. Pour ni physique, mais en vrai c'est dit dans un réel. Plutôt indépendant ou pas abusé pour vrai, girl. C'est pour ça, ou pas.
Radio de la paix, il est 12h. Le journal de midi, Mel Emmanuel.
12h à Gaumont dans l'Agné-Bitiassa et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Le bureau politique du PDCI RDA a statué après s'être réuni hier sur le 8e congrès extraordinaire devant déboucher sur l'élection du président du parti. Il aura lieu ce vendredi 22 décembre 2023 à Yamoussoukro. Les bénéficiaires du projet de paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taï sont invités à se faire recenser, sans concerner ceux des régions du Cavali, du Guémont, du Boclé, de la Nawa et de San Pedro. L'actualité sur le continent nous conduira en RDC en ce jour de l'élection présidentielle où les principaux candidats de l'opposition dénoncent un chaos et un scrutin émaillé d'irrégularités. Et en fin d'édition, l'invité de la rédaction, Constant Maïlé, a joint pour Radio de la Paix et Fénistan Betty. Il est le porte-parole de la FENEPLACIE, la Fédération Nationale des Établissements Privés Laïcs de Côte d'Ivoire. Il s'est exprimé sur les 120 milliards de frais de scolarité que leur doit l'État de Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus sur Radio de la Paix. Nous ouvrons ce journal avec l'avis des partis politiques. Le PDCI élira son nouveau président le vendredi 22 décembre 2023 dans un congrès extraordinaire à Yamoussoukro. Décision de la réunion de son bureau politique d'hier. Écoutons à cet effet le communiqué lu par Alain Cocotré, cadre du parti.
Au terme des échanges, le bureau politique a apprécié avec enthousiasme la proposition de la tenue du 8e congrès extraordinaire au lieu et à la date indiquée par le président du parti. Au cours des échanges, le président a donné la possibilité à tous les candidats de s'exprimer. Ils ont tous affirmé leur volonté de voir le congrès se tenir dans un climat apaisé. Pour conclure, il faut noter que trois candidats ont confirmé le retrait de leur candidature devant le bureau politique. Il s'agit de 1. Le professeur Maurice Kakoudikaye, 2. Le ministre Koumouin Kofi Moïse et 3. Monsieur Noël Akossi Benjo. Le bureau politique a clos ses travaux sur une note de satisfaction générale et donne rendez-vous à tous les congressistes à Yamoussoukro le vendredi 22 décembre 2023 à 10h.
Des propos d'Alain Cocotré ici rapportés par Jean-Mélène Bitti. Et en attendant la tenue du congrès électif du PDCI à Yamoussoukro, nous prenons la direction de Bouna dans le Bounkani. Les quatre vice-présidents du conseil régional ont été dotés de véhicules de type 4x4 au cours de la quatrième et dernière réunion du conseil tenue le mardi 10 décembre 2023. Ayant longtemps fonctionné exclusivement avec les ressources affectées de l'État, ces vice-présidents de région auront pour mission de parcourir le paysage régional pour sensibiliser les populations et convaincre les contribuables pour le paiement de leurs taxes, pour la mobilisation de ressources propres additionnelles et contribuer à l'effort de développement local. On retrouve dans le Bounkani Jérôme Kouassi, notre correspondant.
Le fonctionnement du conseil régional du Bounkani ne doit plus dépendre uniquement des ressources affectées de l'État, rassure le président des régions, Yann Philippe.
Nous avons vécu exclusivement, travaillé exclusivement avec les ressources affectées de l'État. Il est clair que ça ne peut pas continuer ainsi. Nous ne sommes pas en dehors de la République de Côte d'Ivoire. Il nous faut nous aligner sur les tests qui régentent les collectivités ivoiriennes. Ces tests-là nous imposent de ressortir des ressources propres.
Pour une région dite déshéritée et pauvre, comment arriver à prélever des taxes dans le le pays rural. Développer d'abord une économie locale, l'approche du conseil régional du Bunkani par la voix de son président.
Nous savons que notre région est l'une des régions les plus pauvres du pays avec un taux d'environ 60% de pauvreté. Il faut créer l'économie locale. Lorsque cette économie locale sera entamée, par derrière, nous travaillerons à amener ces populations à contribuer. Donc ça veut dire que ça nous laisse un temps assez important pour faire comprendre le processus aux parents, les amener, les engager dans ce processus-là et les amener effectivement à contribuer.
Pour atteindre ces objectifs, le conseil a doté ses quatre vice-présidents de véhicules flambant neufs de type 4x4 et mis en mission, explique le président du conseil régional de Bouna, Yann Philippe.
Nous les attendons dans la proximité avec les populations, nous les attendons dans la sensibilisation et nous serons très regardants des objectifs, de l'atteinte de ces objectifs-là. Et voilà pourquoi nous mettons à leur disposition ces moyens de travail. Après la mission qu'ils ont, les chefs qui sont. Tout ce qui manque, c'est les résultats. On attend d'eux maintenant des résultats et ces engins-là devraient y contribuer fortement.
Pour rappel, le taux de pauvreté de la région du Bunkani est de 60% selon les données statistiques nationales. Jérôme Kwasi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
À Abidjan s'est tenu les 14 et 15 décembre 2023 le deuxième atelier du projet Plateforme e-Policy, un an après son lancement à Dakar. Organisé par l'UNESCO en partenariat avec Code Africa, cet atelier international s'intéresse à la problématique de la faible utilisation du conseil scientifique dans la fabrique des politiques publiques en Afrique. Didier Blé.
Les experts réunis au sein de ce projet novateur veulent mieux utiliser les sciences sociales pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques en Afrique. Madiane Diallo, porteur principal du projet et fondateur de la plateforme Code Africa.
Nous avons mis cette plateforme qui a deux couches. Elle est formée par des experts qui sont les producteurs de connaissances scientifiques. La deuxième couche, c'est la couche qui manque à l'Afrique. Un collège d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, d'anciens dirigeants d'agences de développement et de banques de développement.
Il est important d'emmener toutes les connaissances africaines à regrouper leurs énergies et le faire ensemble et en même temps créer une plus-value. Mame Omar Diop, représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire.
On a des institutions qui sont en place, mais on se rend compte que nous tous, on parle des mêmes défis avec des solutions des fois différentes. Nous pensons que la plus-value, ça va être qu'ils parlent ensemble, qu'ils échangent ensemble sur des solutions holistiques pour adresser les mêmes problèmes afin d'avoir beaucoup plus d'efficience et d'impact.
Des solutions holistiques pour être plus efficaces en amont comme en aval, d'où les attentes du professeur Pierre Kiprié, participant et point focal Côte d'Ivoire.
Nos attentes sont nombreuses. Arriver à avoir un format de policy brief qui puisse être présenté et présentable aussi aux gouvernants comme aux chercheurs.
Créée en 2022, la plateforme e-policy regroupe un peu plus de 1500 experts issus de 25 pays d'Afrique et de la diaspora, composés d'anciens ministres, d'experts de finances et de scientifiques.
Rendons-nous à Sakassou. Le directeur de cabinet du vice-président, Aoutou Kofi Emmanuel, a invité les parents à scolariser davantage leurs enfants plutôt que de les laisser dans les plantations. C'était lors d'un arbre de Noël organisé au bénéfice des enfants de la ville. De Sakassou, la correspondance de Joseph Assalé.
L'éducation doit être le socle de tout développement local, selon le directeur de cabinet du vice-président de la République. Raison pourquoi Kofi Aoutou Emmanuel plaide pour une scolarisation à outrance des enfants du département de Sakassou.
Il n'y a pas de capital humain qui vaille sans une éducation, sans des populations bien formées, éduquées, et pour avoir véritablement l'égalité des chances. Aucun enfant ne doit rester à la maison auprès de ses parents ou dans des champs sans avoir l'opportunité d'aller à l'école.
In fine, Kofi Aoutou Emmanuel engage les cadres de la région à s'approprier véritablement la politique de scolarisation prônée par le gouvernement.
Conjuguons davantage nos forces dans l'union pour que nous puissions réussir le pari de l'école. Parce que investir dans l'école, c'est investir dans l'avenir. On parle de capital humain et le président Oufouet Boigny nous l'a enseigné que l'école est la priorité des priorités et pour avoir véritablement l'égalité des chances.
Cette appel rencontre l'assentiment des populations.
Adjumani a dit via Béatrice, la place des enfants c'est à l'école, non à la maison. Donc j'exhorte les parents qui ont encore les enfants à la maison de les envoyer à l'école pour leur bien-être. Ce seront peut-être des ministres, des préfets et autres.
A noter qu'à l'occasion de cet arbre de Noël organisé par le directeur de cabinet du vice-président de la République, plus de 400 meilleurs élèves des établissements primaires et secondaires de Sakassou ont été primés. Joseph Assalé, Sakassou, Radio de la Paix.
Un mot de santé. Lors de la dernière revue annuelle du projet de renforcement du système national d'information en nutrition, SNIN, tenu en République du Laos en octobre dernier, il a été relevé comme défi majeur la coordination de ce projet. Et c'est dans cette optique que le Programme national de nutrition, l'Union européenne, l'OMS et l'UNICEF ont organisé une réunion du comité de pilotage de ce projet le mercredi 13 décembre 2023 à Cocody. Les détails avec Dr René Oka, directeur coordinateur du Programme national de nutrition.
Le comité de pilotage fait le bilan des années projets qu'on conduit et nous travaillons avec la direction de l'information sanitaire sur les aspects techniques de la gestion donc, des données de nutrition. Nous avons un tableau qui retrace l'ensemble des données de nutrition, qu'on peut apprécier la complétude et la promptitude des données, faire des analyses, voir donc l'incidence et la prévalence de certains indicateurs de nutrition comme la malnutrition aiguë et puis ça nous permet de savoir si on a trop d'enfants malnutris, si on a moins et ça nous permet de prendre l'action. Nous avons des données de routine qui nous permettent d'apprécier l'incidence de la malnutrition sur l'ensemble du territoire. Nous avons également l'enquête démographique de santé qui nous donne également la situation. La question de l'anémie également est au cœur de nos échanges pour trouver donc des solutions durables. Ces incidences de la malnutrition, d'où donc notre réunion pour permettre de pouvoir avoir des données de qualité qui nous permettent de prendre la décision. Quelle est la situation de la malnutrition en Côte d'Ivoire? En termes de pourcentage, sur la chronique, on est autour de 21-22%. Le taux d'allaitement a progressé aujourd'hui de 24 à 34% exclusif. L'allaitement jusqu'à 2 ans, on est autour de 80-85%. L'objectif, c'est d'atteindre 72% d'ici 2025. Nous avons également la question de la mise au sein précoce. Et doit s'aligner sur la consultation prénatale, mais autour de 40-45%. Les perspectives ici, c'est d'améliorer la compétence des producteurs de données et puis également l'audit des données pour des régions et des districts pour maintenir la qualité et également assurer l'analyse. C'est la prochaine étape de la perspective.
Le docteur René Oka dans des propos recueillis par Paul-Bénédicte Bolou. Protection sociale dans le secteur agricole et informel. Un atelier technique de consolidation du rapport final d'une étude relative au programme d'investissement pour l'extension de la protection sociale dans les secteurs agricole et informel en Côte d'Ivoire se tient du 19 au 20 décembre 2023 à Assigny. C'est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale avec l'appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. L'objectif du projet est de passer d'un taux de couverture des programmes de protection sociale de 27% en 2020 à 40% en 2025 pour finalement atteindre 54% en 2030. Jean-Claude Mabéa était à l'ouverture des travaux, suivant son compte-rendu.
Ataé Maïga, représentant résident de la FAO, a d'entrée présenté le programme qui fait l'objet de cet atelier de consolidation.
L'objet de la rencontre ici, c'est d'échanger autour d'un programme d'investissement pour la protection sociale en Côte d'Ivoire, qui va permettre justement de mettre toutes les ressources qui sont nécessaires pour que la protection sociale puisse enfin atteindre tous les acteurs qui opèrent dans le monde rural et aussi dans l'informel. Et cela permettra de rehausser la couverture de la protection sociale en Côte d'Ivoire.
De nombreux défis restent à relever en matière de protection sociale dans le secteur agricole et informel, a reconnu Aubin Tapé Nyoleba, directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.
Nous avons pour objectif d'atteindre 50% de la population rurale à l'horizon fin 2024. Nous sommes déjà pour la couverture maladie universelle à 9 millions de personnes enrôlées. De façon globale, c'est à peu près le tiers, donc 30% de la population qui est déjà enrôlée. Pour le régime social des travailleurs indépendants, nous avons encore des efforts. Nous sommes seulement à 6% de la population cible. Mais avec les efforts de toutes les parties prenantes, les fêtières de ces organisations que nous avons rassemblées aujourd'hui, nous pourrons rapidement les sensibiliser et rapidement avoir des adhérents qui comprendront que ces mécanismes sont pour leur bien-être et pour le bien-être social de leur communauté.
Les participants disent attendre beaucoup des conclusions de cet atelier.
Jacob Niamien, le directeur pays de CRS. Le cadre qui a été établi par le ministère qui fait l'objet de cette rencontre puisse être un cadre consolidé.
Après validation du rapport final, suivra la phase de généralisation du programme à l'échelle nationale.
Un mot d'environnement dans ce journal. L'unité de coordination du projet de paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taï a procédé au lancement de l'appel à manifestation d'intérêt visant le recensement des bénéficiaires du projet dans les régions du Cavali, du Guémont, du Boclet, de la Nahua et de San Pedro. Les détails avec Mata Touré.
Cet appel à manifestation d'intérêt a pour objectif de recenser toutes les parties prenantes locales ayant réalisé des activités éligibles au paiement en vue de leur reverser une partie des revenus équivalents aux activités qu'elles ont réalisées, conformément au plan de partage des bénéfices du projet. Jean-Dominique Bescon est représentant de la Banque mondiale.
Pour ce faire, il faut que les différents bénéficiaires soient connus de façon exhaustive, ainsi que les activités que ceux-ci ont réalisées et qui ont contribué à réduire les émissions. Cela sera fait à travers cet appel à manifestation d'intérêt pour le recensement des bénéficiaires.
Pour être bénéficiaire de ce projet, il faut avoir réalisé des activités agroforesterie, reboisement ou encore conservation dans au moins une des régions du Cavali, du Boclet, du Guémont, de la Nahua ou de San Pedro avant le 30 décembre 2021. Eric Conan, coordonnateur du projet PRI.
Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a annoncé officiellement la réduction de 7 millions de tonnes équivalent CO2 sur la période 2020-2021 dans le cadre du projet de paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taï, en abrégé PRI. Ces émissions réduites font l'objet d'un contrat d'achat avec le Fonds carbone de la Banque mondiale qui permettra à la Côte d'Ivoire de disposer dans les mois à venir d'environ 35 millions de dollars.
Au terme de la période de manifestation d'intérêt, une base de données des candidats sera constituée. La manifestation d'intérêt est ouverte pour une période de 3 mois.
Élections République démocratique du Congo. Les principaux candidats de l'opposition à la présidentielle ont dénoncé le chaos et les irrégularités constatées selon eux dans l'élection. Devant la presse, Martin Fayulu a lancé qu'il n'y avait pas d'organisation après avoir voté dans un bureau de la Gombe, commune de Kinshasa abritant institutions et ambassades. Il est allé jusqu'à affirmer que le désir de la commission électorale est de faire passer Félix Tshisekedi, le président sortant, candidat à un second mandat. Peu après, dans le même centre de vote, mais dans un bureau différent, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a estimé que le processus électoral était émaillé de beaucoup d'irrégularités. Retour à Abidjan dans les studios de Radio de la Paix pour un entretien avec l'invité de la rédaction. Il s'agit d'Efenistan Betty, porte-parole de la Fédération nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, Fénéplacy. Avec lui, nous parlons des 120 milliards de frais de scolarité dus par l'État de Côte d'Ivoire à la Fénéplacy qui menace de fermer les établissements le 8 janvier 2024 si rien n'est fait. Écoutons cet entretien mené par Constant Maïlé.
Efenistan Betty, porte-parole de la Fénéplacy, bonjour.
Bonjour.
Au niveau de la Fénéplacy, quel est votre problème aujourd'hui?
Nous sommes devant des impayés de l'année scolaire 2022-2023. Et à cela s'ajoutent les passifs depuis 2020, qui courent de jusqu'à 26 milliards à peu près, le général comme au niveau du technique. Et à côté de ces impayés-là, nous sommes confrontés aussi à la pression de la CNPS, des impôts devant lesquels certains établissements sont menacés de fermeture, alors que l'État reste nous devoir ces sommes qui gênent considérablement notre fonctionnement.
À qui vous êtes adressé pour régler ce problème?
Nous n'avons pas cessé d'attirer l'attention de nos autorités par des courriers et même par des rencontres personnelles. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu d'avancée notable. Et c'est ce qui donc a amené le Bureau fédéral à convoquer l'ensemble des établissements membres de la Fénéplacy à cette Assemblée générale qui s'est tenue le mercredi 13 décembre dernier.
Qu'est-ce que cette Assemblée générale a décidé?
D'abord, ils ont donné mandat au Bureau fédéral de poursuivre toutes les démarches idoines afin de pouvoir avoir une satisfaction de toutes ces difficultés que nous présentons. Et à l'issue de ces démarches, donc, s'il n'y a pas de satisfaction, parce qu'aujourd'hui, ce que nous revendiquons, c'est l'apurement des 120 milliards qui représentent l'entièreté de la scolarité 2022-2023. Et nous sommes au premier trimestre de l'année 2023-2024. Alors, comment pouvons-nous expliquer que, ayant achevé la totalité de cette année 22-23, il nous reste encore en souffrance ces frais de scolarité-là qui représentent 120 milliards pour l'enseignement général et au niveau de l'enseignement technique et professionnel, que nous avons 8 milliards d'impayés au titre de l'année scolaire 2022-2023 et 4 milliards au titre de l'enseignement professionnel. Donc, devant ces difficultés-là, l'Assemblée générale a donné mandat, comme je l'ai dit, au Bureau fédéral de mener les démarches, faute de quoi, jusqu'au 31 décembre 2023. Si nous n'avons pas la satisfaction de tous ces problèmes-là, nous serons dans l'obligation, malgré nous-mêmes, à nos corps défendants, de marquer un arrêt parce que nous serons en cessation de paiement à partir du 31 décembre. Donc nous ne serons plus à mesure d'assurer la formation de nos enfants à partir du 8 janvier 2024.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'on arrive à cette grève, à ce débrayage, à cet arrêt de travail le 8 janvier?
Bon, notre souhait est que nos autorités au haut niveau soient interpellés et qu'ils prennent à bras le corps ce problème. Parce que les établissements privés, c'est pas facile fonctionner toute l'année, 9 mois, 12 mois, sans avoir un paiement, c'est vraiment difficile. Donc la seule solution aujourd'hui pour éviter ce débrayage le 8 janvier, qui n'est pas décidé de gâter de cœur, mais on serait contraint d'arriver là. Puisque si nous n'avons pas les moyens pour pouvoir payer le salaire, on ne pourra pas assurer la formation qu'il faut. Donc la solution est que, au plus haut niveau, que les autorités compétentes puissent prendre à bras le corps ce problème et qu'il y ait un paiement avant le 31 décembre pour nous permettre de faire face à nos charges salariales. C'est la seule solution que nous voyons.
Est-ce que déjà il y a eu un précédent en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on vous a déjà dû une somme pareille? 120 milliards enseignement général, 8 milliards enseignement technique et 4 autres milliards. Est-ce qu'il y a un précédent en Côte d'Ivoire?
Il y a un précédent, effectivement, puisque il y a ce gap, il y a ce déséquilibre entre le budget alloué et les élèves affectés dans nos établissements. Et nous n'avons fait que attirer l'attention des autorités. À plusieurs reprises, au temps du Premier ministre Kabila Duncan, il y a eu une séance de travail avec les fêtiers, de sorte à pouvoir parvenir à un équilibre entre les élèves affectés et le budget alloué. Malheureusement, d'année en année, le déséquilibre ne fait que s'accroître. Et voilà la difficulté. Ce n'est pas la première fois, puisque comment on peut comprendre que nous sommes à l'année scolaire 2023-2024, pour laquelle nous venons d'achever le premier trimestre, et que nous sommes encore à parler de scolarité à payer sur l'année scolaire 2022-2023, une année déjà achevée, pour laquelle le travail a été fait. Et devant ces difficultés, ce qui nous écœure, c'est la pression que nous subissons de la part des impôts et de la CNPS. Bon, l'État ne peut pas nous devoir autant d'argent et menacer les fondateurs des pourvoyeurs d'emploi comme de moins que rien. Que ce soit au niveau des impôts, de la CNPS, nous ne refusons pas de faire face à nos obligations fiscales. Mais il faudrait quand même tenir compte aussi des difficultés de trésorerie que nous avons dû au fait que l'État ne paye pas à temps, à bonne date, sa dette aussi.
Face à cette situation, est-ce que vous avez eu à rencontrer votre ministère de tutelle?
Bien, je pense qu'à ce niveau, les démarches sont en cours pour qu'une question les rencontrer, mais il n'y a pas encore eu de rencontre formelle en tant que telle. Mais en tout état de cause, quand il y a une situation pareille, nous adressons des courriers et nous pensons que nécessairement les rencontres pourraient éventuellement avoir lieu.
Nous espérons que la rencontre ait lieu. Vous essayez de désamorcer cette bombe.
Tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, le privé, c'est pas moins de 70%. Donc, quand on a un poids de ce genre, c'est ça de ce que nous ne comprenons pas. Parce que quand tu dis que quelqu'un est important à tes yeux, mais tu le traites avec du monde d'égard, mais nous ne sentons pas ça.
Efenistan Betty, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous aussi.
L'invité de la rédaction, Efenistan Betty, porte-parole de la Fédération nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, Féné Plassy, à l'instant en entretien avec Constant Maïlé. Nous voici arrivés au rappel des titres. Le bureau politique du PDCI-RD a statué après s'être réuni hier mardi sur le 8e congrès extraordinaire devant déboucher sur l'élection du président du parti. Il aura lieu ce vendredi 22 décembre 2023 à Yamoussoukro. Et puis, actualité sur le continent, jour de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, les principaux candidats de l'opposition dénoncent un chaos et un scrutin émaillé d'irrégularités. Merci d'avoir suivi ce journal. À sa suite, la revue de presse avec Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous. Ouvrons cette revue de la presse avec le bureau politique du PDCI. À ce propos, Fraternité Matin annonce lors de